prises de terre, l'Office fédéral de l'environnement a publié tout récemment une étude sur l'empreinte environnementale de la Suisse. Cette étude est particulièrement intéressante parce qu'elle montre que l'évolution de cette empreinte sur 20 ans, eh bien, elle a pas mal changé forcément. Et puis cette étude, elle ne s'intéresse pas qu'à l'empreinte intérieur du pays. C'est sûr que quand on achète un objet fabriqué en Chine, par exemple, eh bien, ce n'est pas la Suisse que nous polluons. Eh bien, notre empreinte extérieure a augmenté ces 20 dernières années. En conclusion, l'Office fédéral de l'environnement dit très clairement les choses. Je vais citer l'étude, deux points, ouvrez les guillemets. Les empreintes de la Suisse sont incompatibles avec les limites planétaires. Pour parler de ces études et aborder la question des solutions, j'ai rencontré Pascal Peduzzi. Il est directeur du GRID Genève, c'est une partie du département scientifique du programme des Nations Unies pour l'environnement, et il est également professeur au département de géographie et environnement à l'Université de Genève. Je lui ai demandé tout d'abord de définir ce terme, puisqu'on va en parler, d'empreinte environnementale. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Eh bien, pour chaque bien et service que nous consommons, nous avons un poids qui pèse sur l'environnement. Ça peut être en termes de pollution, ça peut être en termes de déforestation, en termes de perte de biodiversité ou de différents types de pollution. Donc c'est ça l'empreinte qu'on va laisser sur l'environnement.
Donc ça, c'est la définition la plus générale qu'on puisse imaginer sur l'empreinte environnementale. On va peut-être venir après un petit peu dans le détail. Et puis, le rapport précise que l'empreinte ou les empreintes environnementales de la Suisse sont incompatibles avec les limites planétaires. Alors là encore, ça a besoin d'une petite définition de ces limites planétaires.
Oui, alors c'est un nouveau concept qui a été développé par des Suédois, en l'occurrence le professeur Rockström, qui essaie de quantifier dans différents domaines, que ce soit le climat, l'eau, la biodiversité, la pollution, etc. Il y en a 9, et qui définit une limite à ne pas franchir. Et si on la franchissait, le système Terre tel qu'on le connaît aurait un autre équilibre. Et cet équilibre serait moins favorable pour nos moyens de subsistance. Donc en fait, pour l'instant, on est dans une période qui s'appelle l'Holocène, qui dure depuis 11 000 ans. Et ça nous a permis de développer l'agriculture, parce que c'est un système qui est prédictible. Si vous savez que vous plantez quelque chose et qu'il va faire suffisamment chaud, suffisamment de précipitations, vous allez avoir des bonnes récoltes, voilà, on peut prédire. Si on rentre maintenant dans ce qu'on appelle l'anthropocène, on arrive dans un système climatique qui est plus aléatoire, ça va être plus compliqué, moins prévisible et donc moins nous permettre de subvenir à nos besoins, pas seulement l'agriculture, par exemple le tourisme en Suisse particulièrement, nous avons des stations de ski, si tout à coup vous investissez dans un super téléphérique et puis que vous n'avez plus de neige, votre investissement n'est pas rentabilisé. Donc c'est ce genre de système, on a besoin de la prédictibilité et les limites planétaires, si on les respecte, elles nous permettent de rester dans un système qu'on connaît. Et c'est ces limites-là qu'il faut absolument respecter.
Donc 9 niveaux à ne pas dépasser. Et sur ces 9 niveaux, aujourd'hui, au niveau planétaire, on en a déjà dépassé combien ?
Alors 3. On a dépassé celle sur la biodiversité. Donc on est dans la 6e extinction massive de biodiversité. Sauf que les 5 précédentes, ce n'était pas l'homme qui en était responsable. Cette fois-ci, c'est nous. Le climat. Et puis également sur tout ce qui est phosphore et azote, donc qui entretient notre système agriculture en termes de fertilisants. Donc là, on a dépassé également ces limites-là. Et d'autres sont pas très loin derrière, l'acidification des océans. Et il y a encore 2 limites qui elles, ne sont pas connues, on n'a pas réussi encore à les quantifier, c'est par exemple la quantité de pollution qu'il y a dans l'air. Mais là, quand même, on sait qu'on a quelques 7 millions de personnes par année, c'est énorme, qui meurent du fait de mauvaise qualité de l'air. Donc c'est un vrai génocide, c'est pratiquement la population de la Suisse chaque année qui meurt à cause de pollution de l'air, soit ambiant à cause du trafic et des usines, soit de l'air intérieur à cause de mauvais moyens de combustion.
Alors, vous mentionnez la Suisse. Évidemment, dans ce rapport de l'Office fédéral de l'environnement, il est question de l'empreinte environnementale de la Suisse, qui est finalement, au niveau de la planète, un tout petit pays. Donc, est-ce qu'on a de quoi s'en inquiéter ?
Absolument, parce que la Suisse représente 0,11% de la population mondiale. Par contre, nous sommes des très gros consommateurs. Nous avons une grosse économie, nous sommes riches. Et donc, nous importons énormément de denrées, que ce soit alimentaires ou minières, pour notre consommation, pour nos produits. Donc, c'est pas seulement l'environnement en Suisse qui est ici sous la loupe de ce rapport d'empreinte environnementale de la Suisse. C'est vraiment notre système de consommateurs, comment est-ce que les Suisses influencent, ont un impact sur le reste du monde. Alors, on a la chance, effectivement, en Suisse, d'avoir des normes qui sont assez bonnes. Et on voit un environnement qui s'améliore s'améliore. Si on voit la qualité de l'eau dans les lacs, on peut se baigner, la qualité de l'eau est bonne. L'air que nous respirons est aussi également en train de s'améliorer. Mais il s'améliore parce que justement, nous avons mis des normes très strictes et nous avons donc exclu certaines entreprises qui étaient trop polluantes, qui maintenant sont déménagées et sont allées s'installer en Chine ou ailleurs. Et là où il y a une certaine hypocrisie dans le système, c'est que nous n'acceptons pas un certain nombre de types de production chez nous. On dit que ça, c'est hors norme, on n'est pas d'accord d'accepter de telles pollutions. Par contre, on n'a aucun souci d'accepter de consommer des produits qui sont faits selon ces normes, qui peuvent endommager l'environnement ou la santé d'autres personnes dans d'autres pays. Et je crois que là, il y a vraiment un regard critique à avoir sur notre niveau de consommation.
C'est justement ce dont le rapport parle quand il parle de cette empreinte environnementale à l'étranger. C'est-à-dire que le rapport finalement nous dit... En Suisse, on a une empreinte environnementale qui diminue légèrement, mais si on prend l'empreinte globale, c'est-à-dire en comptant Suisse et étranger, on augmente. C'est-à-dire que l'empreinte à l'étranger continue d'augmenter.
Oui, alors elle ne diminue pas pour tout. Par exemple, nos émissions de gaz à effet de serre, elles sont restées effectivement stables si on regarde le per capita, donc par personne. Par contre, comme le nombre de personnes a augmenté, si on regarde le rapport s'intéresse à la période depuis 1996, à l'époque, nous étions 5,8 millions d'habitants, nous en sommes aujourd'hui 8,5 millions. Donc, les gaz à effet de serre ont quand même augmenté de 12%, principalement du fait de l'augmentation de la population, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau personnel. Donc, elles ne diminuent pas. Par contre, elles ont augmenté à l'étranger et notamment 60% maintenant nos émissions sont émises à l'étranger. Ça veut dire quand vous achetez un ordinateur, des téléphones portables ou des denrées alimentaires qui sont importées, ça a demandé un certain nombre d'énergie et cette énergie a été dépensée à l'étranger. Mais finalement, elles nous reviennent quelque part sous forme de produits. Donc, nous sommes responsables de cette émission. C'est ce que dit donc ce rapport en prenant en compte les importations. Nos exportations, c'est également le cas. Par exemple, la Suisse exporte pour 2 milliards de francs suisses chaque année de café et pour 800 millions de francs suisses de chocolat. Or, nous ne produisons ni café ni cacao. Donc, ça veut dire que nous devons d'abord importer ces denrées pour en plus pouvoir les réexporter. Donc, même nos exportations, finalement, on peut dire que les exportations de fromage, ok, ça, c'est les impacts sont produits en Suisse, c'est fait avec du lait suisse et on exporte notre fromage, ça, c'est une chose. Mais quand on doit importer des denrées pour ensuite les transformer et les réexporter, là, on a également un énorme impact sur des pays qui produisent ce cacao, qui produisent ce café, donc qui induisent éventuellement une déforestation dans ces pays.
Pascal Peduzzi, on parle pas mal d'émissions de gaz à effet de serre. Le rapport s'intéresse aussi à nos impacts sur la biodiversité. Et là aussi, l'impact est assez étonnant.
Oui, donc la Suisse, du fait de sa consommation, encore une fois, des impacts, par exemple, si on prend de l'huile de palme, on va déforester pour mettre des palmeraies. Donc là, c'est par exemple tous les animaux qui habitent à Bornéo, qui n'ont plus d'habitat. Ou bien c'est le bois qui est utilisé depuis l'Indonésie, ou le soya qui est fabriqué au Brésil. Donc on a toutes sortes d'impacts via notre consommation sur cette déforestation, cette perte d'habitat qui, à terme, donc, altère également la biodiversité. Et la Suisse n'est certainement pas un modèle dans ce genre, puisque si tous les pays du monde faisaient comme la Suisse, à ce moment-là, ça donnerait lieu à une perte de 55 000 espèces, soit 4 fois plus que la limite planétaire pour rester dans un système où la biodiversité joue son rôle. Donc on est dépendant de cette biodiversité. Il faut voir que la biodiversité, ce n'est pas juste des jolis animaux pour aller regarder, c'est aussi ça, mais c'est aussi des simples vers de terre, c'est aussi des abeilles, c'est des insectes qui sont extrêmement utiles, que ce soit pour la pollinisation, pour la création de sols, pour casser en fait toutes sortes de matières organiques, la transformer en terre, etc. Donc on a un besoin essentiel de la biodiversité. Et s'il y a un besoin qui est absolument essentiel, c'est aussi toute la photosynthèse qui produit simplement l'oxygène que l'on respire. Donc on est totalement dépendant de cette biodiversité.
Le rapport d'ailleurs mentionne que les externalités pour la Suisse sont particulièrement fortes sur le Brésil et sur l'Inde. Ça m'a étonné parce que moi je m'attendais bêtement à la Chine.
Alors, la Chine, à cause du charbon et de toutes ces usines du monde, donc il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui sont imputés quand même à la Suisse. Mais effectivement, en Amérique latine, on importe par exemple du cacao ou du café, l'huile de palme également pour l'Indonésie. L'Inde, je ne sais pas exactement quoi, mais j'imagine plutôt des cotonnades. Aussi, quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est les fleurs. Et ça, c'est, ils n'en parlent pas dans ce rapport, mais je le mentionne quand même parce que offrir des fleurs, c'est quelque chose qui, voilà, c'est un geste d'amour ou en tout cas d'amitié. Quand on veut offrir des fleurs à sa petite amie et que ces fleurs sont produites en Éthiopie, dans les terres les plus fertiles sur lesquelles on pourrait faire de la nourriture, alors qu'on a dans ces pays, que ce soit en Éthiopie ou au Kenya, qui représentent les deux pays fournisseurs d'Afrique de fleurs, très importants au niveau mondial, là on voit qu'on a un impact clairement sur la production de nourriture pour offrir des fleurs à sa bien-aimée. Donc là, ce geste d'amour perd beaucoup de son sens. Je ne dis pas qu'il ne faut plus offrir de fleurs, mais peut-être des fleurs plus locales, plutôt que d'offrir des fleurs qui finalement ont un impact sur l'alimentation de pays où on sait qu'il y a la famine.
Alors, Pascal Pedouzi, vous venez de mentionner des choses qui ne sont pas dans ce rapport de l'Office fédéral de l'environnement. Est-ce que justement, ayant eu ce rapport en main, vous vous êtes dit, tiens, mais on aurait pu également ajouter tel point ou tel autre point?
Non, mais ce rapport est très bien et il fait suite à plusieurs autres rapports qui vont dans le même sens. Donc, il alerte l'opinion publique et surtout les décideurs politiques sur les impacts de la consommation, de pas seulement le voir les impacts dans le territoire suisse, comme ils sont souvent regardés dans les différents traités, mais aussi regarder ce fameux impact de notre consommation qui est important. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours aller plus loin. Il y a un secteur qui n'émerge pas encore, c'est le secteur financier. Il faut savoir, comme j'ai dit, la Suisse, c'est 0,11% de la population mondiale. Par contre, c'est 27,5% des avoirs internationaux en gestion de fortune. Donc, l'ensemble de nos banques, en fait, elles gèrent plus de 7 200 milliards de francs. C'est énorme. Rien que la Banque nationale suisse, elle a dans ses actifs 840 milliards. Nos fonds de prévoyance, c'est 820 milliards. Donc, imaginez tous ces financements. S'ils étaient bien investis dans des énergies renouvelables, dans du développement durable, à ce moment-là, on pourrait avoir un impact absolument phénoménal. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On investit énormément dans des technologies qui donnent lieu à des émissions de gaz à effet de serre ou directement dans le secteur pétrolier ou encore pire, du charbon. Donc la Suisse, d'après l'Alliance climatique, serait responsable avec son secteur financier de 1100 millions de tonnes de CO2 équivalent, soit 22 fois plus que les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse. Donc ça nous placerait, si on était en chiffre absolu et qu'on prenait en compte le secteur financier et ses investissements dans ses émissions de gaz à effet de serre, ça nous placerait juste après le Japon et avant le Canada. Donc c'est là qu'on voit le poids de la Suisse, ce tout petit pays de 8,5 millions et qui finalement a un secteur financier qui pèse énormément dans la balance économique mondiale et donc dans les choix économiques qui sont faits. Et parlons de choix économiques, je suis très fier de, moi je suis roman, je suis très fier de mes concitoyens romans qui ont accepté dernièrement cette initiative pour des aliments équitables. Malheureusement, sur l'ensemble de la Suisse, ça a été refusé à plus de 60%. Et là, ça me fait penser un petit peu au mythe de Midas dans la mythologie grecque, donc ce roi qui se plaignait d'être pauvre, puis qui, voilà, il a demandé un pouvoir, que chaque chose qu'il allait toucher allait se transformer en or. Et au bout d'un moment, il ne veut plus de ce pouvoir, parce que tout cet or-là, ben, finalement, il ne peut plus manger, il ne peut plus boire, il ne peut plus tenir sa fille dans ses bras. C'était déjà un avertissement qu'il n'y a pas que l'économie qui est importante, mais qu'il y a tout en bien-être, qu'il y a d'autres valeurs qui sont plus importantes que l'économie. Or, il a suffi que Économie Suisse et d'autres agitent le pouvantail, que la nourriture allait coûter un tant soit peu plus cher pour que tout de suite les Suisses se précipitent et mettent en non dans les urnes. Et la question est que la Suisse a refusé ici une opportunité de faire mieux, de vivre mieux, sans pesticides, en garantissant justement cette initiative visait à accepter des produits qui venaient de l'étranger à condition qu'ils soient produits selon des normes qui soient saines et qui soient équitables. Et nous avons refusé ceci pour des raisons économiques. Donc je pense qu'il faut se poser la question maintenant, est-ce qu'on veut être riche et pollué ou est-ce qu'on veut vivre avec un bien-être et suffisamment pour bien vivre et pas être pollué ni nous, ni surtout polluer les autres pour notre bien-être. Parce que là, ça pose encore une autre problématique et c'est exactement ce que souligne ce rapport. C'est que pour l'instant, ce niveau de vie dont nous bénéficions, et nous avons un excellent niveau de vie en Suisse, mais c'est aussi parce que nous imposons des nuisances de pollution et de nuisances environnementales et sociales et sanitaires sur la santé de plein d'autres millions d'habitants de la planète.
Alors, Pascal Pedouzi, la question qui suit est un peu naïve, mais une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait?
Oui, parce que rapport après rapport, ils s'accumulent, ils disent tous la même chose. Effectivement, quelquefois, ça met un peu en colère. C'est-à-dire que maintenant, on a fait tout ce qu'on a pu. On a expliqué, on a dit, on donne même des solutions. Et je crois qu'il faut vraiment passer à l'action maintenant. Alors, heureusement, là, les Suisses ont accepté le plan d'énergie 2050. Pour des énergies renouvelables. Donc là, on va dans une bonne direction. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Ça peut être fait d'ailleurs à différents niveaux. En tant que consommateur, on peut choisir différents modes de mobilité. On peut décider de manger moins de viande. La production de viande a un énorme impact sur la santé également, mais sur l'environnement avec demande en eau et en énergie et qui occasionne de la déforestation qui est très très grande et également des émissions de gaz à effet de serre. On peut changer nos destinations touristiques. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir autour de nous. Il n'y a pas besoin d'aller prendre l'avion, surtout pour un week-end. On peut changer son habitat si on est propriétaire, si on est locataire, faire pression pour que ce soit le cas. Là, il y a de plus en plus des progrès qui sont réalisés avec des maisons Minergie, donc ça c'est tout à fait positif. Mais le consommateur, il peut pas tout faire non plus. Et il y a aussi des choix technologiques qui peuvent être. On peut faire la promotion de nouvelles technologies, donc en incitant certaines nouvelles technologies et peut-être en taxant des autres énergies pour essayer justement de faire un changement des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, d'une mobilité qui émet beaucoup de gaz à effet de serre vers une mobilité plus douce. Je pense que là, il y a un rôle à faire pour vraiment une transition qui doit se faire beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et finalement, il faudra atteindre une économie circulaire, c'est-à-dire que quand on conçoit en objet ou en bâtiment, on doit savoir à la fin de la vie de cet objet ou de ce bâtiment, où vont tous ces composants. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cela à la fin de la vie du produit pour qu'il soit réinjecté dans une nouvelle production plutôt que simplement d'être mis en décharge. Donc là, il y a énormément de choses à réaliser à ce niveau-là.
Comme le disait Gunther Folli il y a un instant, aujourd'hui on est dans une société où dans le monde de l'industrie, on donne des prix à des gens qui font un peu moins mal. C'est-à-dire qu'en fait, ils font pas encore bien, ils font un peu moins mal et on les encourage. Alors qu'il faudrait faire mieux qu'un moins mal en fait.
Oui, c'est comme quand on dit qu'il faut, pour économiser l'eau, il faudrait fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Je veux dire, on est au-delà de ça. On n'est pas en train de parler de ce genre de mesures-là. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Et ça ne veut pas dire que c'est un retour en arrière à la bougie. En fait, c'est le contraire. C'est que les énergies fossiles, c'est des énergies du passé. Il faut vraiment faire le pas maintenant pour aller vers les énergies du futur. Donc, ce n'est pas le retour en arrière. C'est vraiment, au contraire, faire un grand pas en avant dans les énergies renouvelables, dans des mobilités plus douces, dans un autre style de vie. Et peut-être la manière dont on mesure également notre bien-être. C'est-à-dire que pour l'instant, l'unité de mesure, c'est le GDP. Donc, c'est le produit national brut, c'est l'économie. On mesure notre bien-être avec la richesse. Et finalement, c'est pas ça qui compte vraiment. Ce qu'on doit vraiment apprendre à voir comment notre niveau de bien-être peut être quantifié d'une autre manière. C'est plutôt qualitatif, c'est plutôt les relations avec les gens, c'est sa santé, c'est le plaisir qu'on peut avoir dans des activités qui ne sont pas forcément des activités payantes ou de consommation.
C'est-à-dire qu'en fait, on mesure notre bien-être comme le roi Midas.
Bah pour l'instant, mais pas tous. Et je vois de plus en plus de personnes qui mettent des valeurs ailleurs. La naïveté, c'est vraiment de croire qu'on peut continuer avec un développement non durable, puisque dans non durable, la signification est dans le nom. Ce qui n'est pas durable, ben, à un moment donné, ça s'arrête. Donc les utopistes, ce ne sont pas ceux que l'on pense. Les utopistes, c'est ceux qui pensent qu'on peut continuer à faire dans le statu quo et à s'enfoncer au-delà des limites planétaires et penser que les choses vont s'arranger comme par miracle avec une technologie qui va arriver par là. Donc c'est comme vous êtes à 10 mètres sur les plongeoires et vous allez sauter, vous ne savez pas s'il y a de l'eau en dessous. Mais vous sautez ou vous ne sautez pas? Moi, je ne saute pas.
Prise de terre.